anniversaire.
Vous écoutez le magazine de Rame 05, aujourd'hui consacré au festival Tous dehors enfin. Tous dehors enfin, qui fête ses 10 ans cette année, l'occasion de revenir à la fois sur la création, la trajectoire de ce festival désormais bien ancré dans le paysage gapençais. Et c'est en compagnie du directeur du théâtre La Passerelle, organisateur, qu'on en parle. Philippe Ariagno, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous en studio pour évoquer à la fois la programmation et plus largement ce festival Tous dehors enfin, festival des arts de la rue. Alors, 10 ans, qu'est-ce que ça vous fait, Philippe Ariagno, de fêter cette année ces 10 ans de ce festival? Qu'est-ce que ça représente pour vous?
On va dire que d'abord, c'est une vraie satisfaction que ce festival atteigne ces 10 années. C'est une espèce de grande première ligne droite où un festival naissant il y a 10 ans, avec des perspectives un peu inconnues, se soit installé comme ça au bout de d'une décennie, dans le cœur des gens, dans un rendez-vous un peu incontournable, vous le disiez en introduction. Donc c'est source évidemment de satisfaction. C'est aussi beaucoup de travail, c'est un gros défi, et c'est un défi qu'on a posé dès le départ avec d'autres partenaires, les partenaires publics et les partenaires privés, on en reparlera, pour être, en tous les cas, faire naître et faire durer un festival dédié aux arts de la rue, et pour une manifestation pérenne dans le temps, et qui grandisse si possible, et qui s'installe de plus en plus loin en termes de notoriété.
Dans l'éditorial que vous rédigez en introduction du programme de Tous dehors enfin, vous citez une spectatrice donc de ce festival qui vous parlait de son fils qui a vu grandir le festival, qui avait 4 ans au moment où la première édition a eu lieu, qui aujourd'hui en a 14. Qu'est-ce que ça représente dans, je sais pas, l'imaginaire, la vie, le parcours d'un enfant qui grandit avec ce festival?
Écoutez, moi je trouve ça absolument formidable. Enfin, je crois qu'on l'a peut-être tous vécu dans les endroits de vie. Effectivement, c'est d'abord une espèce de fidélité d'un jeune garçon de 4 ans qui voit ses premières émotions devant du spectacle vivant, qui chaque année revient, qui encore se régale à chaque fois, travaille son imaginaire, sous plein de perspectives, et que il a 14 ans, il est adolescent, et il y va peut-être avec des copains, des copines, et c'est toujours un rendez-vous, c'est son festival, une espèce de sentiment d'appartenance, il s'est accaparé le festival, et en fait c'est ce qu'on veut, c'est que ça soit, comme on le disait un petit peu tout à l'heure, entre nous, c'était comme un espèce de rituel qui s'est installé pour pas mal d'habitants. Le Tous dehors, on est là, on le suit, on ne le rate pas et on se régale à chaque fois. Et c'est une vraie satisfaction pour La Passerelle qui, on est très très heureux d'être sortis de nos murs. Je pense que ça a changé beaucoup de choses aussi. C'est peut-être une façon de dire aussi que le spectacle vivant, qu'il soit dans les salles ou dehors, il s'adresse à tous. C'est que des moments de bonheur, c'est des trésors qu'il faut aller chercher. Alors c'est plus compliqué de pousser la porte d'un théâtre, mais dans l'espace public c'est peut-être plus facile. Mais finalement c'est la même équipe, c'est les mêmes programmations, c'est les mêmes envies, en tous les cas, qu'on a de nous adresser à tous et de provoquer des choses fortes émotionnellement chez le public.
Parce que c'est un des objectifs, on peut le rappeler, de ce festival, c'est sortir du théâtre pour aller à la rencontre de ceux qui ne le fréquentent pas toute l'année. Et ce que vous constatez, Philippe Ariagno, quand vous vous promenez sur ce festival, c'est que effectivement, dans les faits, c'est pas le même public, quoi. Vous connaissez bien votre public habituel.
Oui, on le connaît très très bien. Donc évidemment, on retrouve nos abonnés de l'année qui se régalent aussi de ce festival, parce que de toute façon, c'est des gens qui vont vers le spectacle vivant toute l'année, mais il y a 60% des gens qui sont pas le public de La Passerelle habituellement dans la saison. Et ça, c'est la grande satisfaction. C'était le but, aussi, On sait que ça peut être un peu inhibant d'aller pousser les portes d'un théâtre, de poser des questions, d'avoir peur de, même si on les accueille très très bien et qu'on est là vraiment pour les gens, n'importe qui et tout le monde. Ça peut être un peu inhibant, c'est pas forcément un réflexe, c'est pas forcément une culture d'aller pousser les portes d'un théâtre. Donc la rue, évidemment, on s'y promène librement, donc on peut s'arrêter un spectacle, on peut partir si on n'a pas envie ou si on comprend pas ou ça nous plaît pas. Donc il y a cette liberté là qui fait que petit à petit les gens intrigués s'approchent, restent, reviennent, et c'est un pari qu'on a réussi, puisqu'on arrive entre 25 000 et 30 000 spectateurs à chaque édition, et que ça pourrait monter, et que le format du festival fait qu'on plafonne un petit peu, on en parlera peut-être. Mais en fait, ce festival, si on voulait répondre vraiment à la fréquentation exponentielle, il commence un peu à saturer en termes de spectacle. Donc il faudrait pouvoir le faire grandir raisonnablement, mais en tous les cas répondre à cette attente très très forte aujourd'hui des gens.
Et donc vendredi 2 jusqu'au dimanche 4 juin, 11 spectacles, 42 représentations, et c'est important, 4 créations. Ça signifie que la passerelle soutient la création dans les arts de la rue. C'est quelque chose qui n'est pas forcément évident dans le milieu du théâtre et des scènes nationales, Philippe Ariagno.
Oui, vous avez raison de le souligner. Il y a 78 scènes nationales, hein, dont le Théâtre du Rang, ça n'est pas longtemps, qui est devenu la 78e scène nationale. Les scènes nationales ne sont pas forcément obligées de soutenir les arts de la rue. Ils doivent être pluridisciplinaires. Moi, j'estime, dans mon projet artistique pour lequel j'ai été nommé, que les arts de la rue font partie de la création française importante et internationale. Il y a des choses vraiment très très importantes. Donc, je soutiens là, dans un projet qui est un axe fort, qui est la dynamique dedans-dehors. Mais c'est rare, effectivement, sur l'ensemble des scènes nationales, que les arts de la rue soient soutenus aussi fortement comme nous le faisons à Gap, peut-être la passerelle, et notamment parce que vous dites sur les créations, c'est-à-dire que c'est les premières françaises dans ce festival. Donc ça veut dire qu'avant, il y a eu des résidents, des artistes, des compagnies qu'on a invitées. On a apporté des parts de coproduction pour que le spectacle existe, pardon. Donc c'est important, c'est un vrai engagement pour les arts de la rue, parce qu'on estime que cet engagement financier aide les compagnies à créer dans l'espace public, et on a envie de revendiquer ça, et c'est plutôt assez rare, d'accord. On ne fait pas que de la diffusion.
Concrètement, ça signifie que certaines compagnies qui ont été soutenues ont été rémunérées pour leur travail de création, c'est-à-dire avant même qu'une première représentation.
En fait, quand un artiste décide de faire un projet artistique, il monte un budget, ce qu'on appelle la production, il cherche de la production, donc je sais pas, un budget ça peut s'appeler de 30 000 à 300 000 ou 500 000, ça dépend les projets, et après il va chercher des partenaires. Donc il va chercher des partenaires pour financer des résidences, pour financer les salaires des artistes, pour financer une scénographie peut-être, ou des décors à construire, enfin voilà, tout ça, et des déplacements éventuellement, et il cherche des partenaires, dont la passerelle est un des partenaires de 4 créations cette année. On est plutôt ravis, on le revendique fortement, c'est un peu inédit.
Et toujours à propos du soutien apporté ou non aux arts de la rue, comment vous interprétez le fait que justement les scènes nationales ne se positionnent pas beaucoup sur ce créneau-là ? Est-ce que c'est que les arts de la rue souffrent encore d'une image peut-être d'une culture qui n'aurait pas sa place dans le milieu soutenu par les théâtres ?
C'est intéressant ce que vous dites, parce que c'est vrai que c'est une vraie question. C'est pourquoi mes collègues, ou la plupart de mes collègues de scène nationale, ne soutiennent pas les arts de la rue, ou de manière très sporadique là de temps en temps. En fait, je crois qu'il y a eu tout un moment où la création des arts de la rue était un peu méprisée, en disant ouais non bon, il y a pas des vraiment comédiens, les écritures dramaturgiques sont pas très intéressantes. Mais les arts de la rue ont beaucoup changé en fait. Il y a des gens maintenant qui écrivent pour la rue vraiment, et avec une vraie dramaturgie, qui savent écrire des spectacles. Il y a des formidables comédiens dans l'espace public. Donc voilà, il suffit d'aller regarder un peu dans les grands festivals, que ce soit Chalon, Aurillac, on repère des choses magnifiques, il y a des choses pas bien du tout, mais comme des choses sont pas bien non plus dans la salle, forcément, je vois pas que des bons spectacles dans la salle. Donc il faut les fouiller, il faut les chercher un petit peu dans ces festivals-là, à droite, à gauche, et finalement, on trouve des vrais trésors, avec des vraies écritures dramaturgiques, avec d'excellents comédiens, enfin voilà, tous les ingrédients qu'on aime, nous, dans l'art vivant en général, et pour les spectacles de salle. Donc voilà, il y a peut-être ce mépris-là, ou cette méconnaissance, finalement, au bout d'un moment, on a délaissé un peu ça. Moi, je trouve que c'est dommage, parce que c'est non seulement nous permettre de toucher des gens qui poussent pas les portes d'un théâtre, comme on le disait tout à l'heure, et en plus, il y a des vrais bijoux à aller chercher dans les arts de la rue.
Et c'est ce qu'on va découvrir dans un instant sur ce magazine, sur RAM05, toujours en compagnie de Philippe Ariagno, le directeur du théâtre La Passerelle. On écoute tout de suite le groupe Pelouse.
On est parti pour un peu longtemps. On est tous les trois. Et pour tenir, avec le poids et ce qui nous attend, on se dit qu'il faut à manger du solide. Alors on passe à la friterie et on achète des frites. On en achète beaucoup et on les met dans les poches. On a des frites plein les poches. On part pour un peu longtemps, alors on fait des provisions. Et vu que tous on aime beaucoup les frites, on s'en met plein les poches. Jette pas dessus pour autant, on garde les frites bien au chaud, dans nos poches, pour pouvoir tenir. On en mange que de temps en temps. Au bout d'un moment quand même, elle commence à devenir tiède, puis carrément froide, et molle aussi. On a des frites molles plein les poches. C'est dégueulasse. Ça nous saoule. Les frites. quelques heures, ça se met à suinter. Le long des cuisses, ça traverse les poches, ça coule jusqu'aux mollets. Du jus de frites, ça nous saoule. On se met à poil, on laisse tout dans un buisson et on continue. On a froid, on a faim, on se dit qu'on va pas tenir. Alors on rentre chez nous bien saoulés. Et on se dit que la prochaine fois on mangera les frites directes. Et que pour l'excursion on prendra plutôt des beignets ou un truc dans le genre. Les frites. Les frites. Les frites. Les frites. Les frites. Les frites. Les frites.
Philippe Arienneau, à l'instant, on écoutait le groupe Pelouse. Il y a un des artistes qui compose ce groupe qu'on pourra voir sur le festival Tous dehors. Enfin, dans une proposition assez originale, troublante même.
Et oui, oui. Alors, j'espère que vous, que les gens qui nous écoutent pourront le voir. Alors, évidemment, c'est des petites choses très, très spécifiques. Ça s'appelle Only You. Et c'est un espèce de jukebox vivant où on rentre dans une petite boîte et on choisit une chanson d'amour. Je vous dis pas exactement comment parce qu'il faut réserver la surprise, qu'une personne va vous chanter droit dans les yeux, rien que pour vous. Donc c'est un spectateur à la fois, donc c'est 6 spectateurs à l'heure, donc il y a une jauge très très petite. Ça fait partie des choses un peu croustillantes, mais effectivement les auditeurs que nous entendent dire bon bah il fait quand même ça 6 heures dans la journée, donc il met du temps, mais voilà, c'est un spectateur à la fois, donc ça limite un petit peu la possibilité de le voir, mais voilà, ça nous paraissait intéressant quand même de montrer que des choses comme ça existent, et des entresorts absolument inédits, très troublants, très beaux, très poétiques, voilà, c'est formidable.
Entresorts, on rappelle, une forme toute petite de spectacle que vous cherchez particulièrement, Philippe Arienneau. On va revenir sur les différentes formes proposées dans ce festival. Juste, vous l'avez testé personnellement, ce jukebox amoureux, est-ce que c'est un vrai séducteur? Est-ce que vous-même vous avez été...
Ah oui, c'est assez... Alors il choisit en plus dans ses chansons d'amour, c'est plutôt issu du registre un peu populaire, de Elvis Presley, de Only You, de Patrick Bruel, des Beatles, d'Amanda Rodriguez, enfin des gens qu'on connaît, donc c'est des chansons d'amour, hein. Donc en tous les cas, si on est sensible à l'amour, au charme, à la séduction, quand quelqu'un vous chante une chanson à 40 cm du visage, ça laisse pas indifférent, très clairement, hein. Donc ça peut être un peu inquiété, intrigué, ça peut être un peu, ouais, c'est intimidant quand même, mais c'est une belle expérience en tous les cas.
Qu'on soit en manque d'amour, en manque d'humour ou tout simplement un peu curieux, on peut donc découvrir ce jukebox amoureux tout le long du Festival des Arts de la Rue à Gap, Tous dehors. Enfin, alors je le disais à l'instant, il y a différentes formes de spectacle, ça va de cette proposition où c'est un face-à-face vraiment à 40 cm, une
oui,
personne
très intimiste,
et il y a des choses un petit peu plus spectaculaires, un peu plus grandes installations. Parlez-nous peut-être de ce qu'on pourra voir de plus gros, de plus intimidant sur ce festival.
Oui, vous avez raison d'insister. Nous, on essaie d'avoir un espèce d'éventail très très large des propositions d'art de la rue. Donc effectivement, il y a ces choses très intimes, Only You, dont on vient de parler, mais il y a aussi des très grosses formes pour une jauge entre 1000 et 2000 personnes, enfin voilà, qui ne souffrent pas d'un très très large public. On pourrait vous parler de Esquive, hein, qui est on appelait ça du cirque à rebond. C'est 6 trampolinistes absolument incroyable sur 3 trampolines, un espèce de décor, des murs qui se lèvent, qui descendent, etc., qui font un espèce de chose absolument virtuose pour tout public. Voilà, c'est comme un espèce de collectif extrêmement doué parmi les meilleures trampolines en France, hein, du plus petit cirque du monde qui est le long de la compagnie. Donc voilà, ça par exemple, c'est une très très grande forme qui s'adresse à tous. Moi j'ai une chose qui m'a... Alors il y a une création très importante qu'on attend beaucoup, c'est une première, hein, française, comme je disais tout à l'heure, qui s'appelle Fantôme. Arthur de Laval, on l'avait, de collectif La Méandre, on l'avait reçu avec une toute petite proposition. On parlait d'un entresort tout à l'heure, où c'était 14 personnes dans une caravane à suivre une petite histoire, un film d'animation au stylo Bic, avec un musicien qui mettait une couronne de roi. Donc Arthur de Laval, cette fois, il a fait une énorme forme, dans le même principe d'un espèce de ciné-concert à 360 degrés, où on est immergé dans le décor, dans le son, pour nous raconter l'histoire de Fantôme, qui va provoquer une espèce de petite révolte poétique dans une société un peu sclérosée. Et ça, c'est une énorme proposition, hein, le vendredi et le samedi soir, donc pour tout public, très très beau, très poétique. Et puis on pourrait parler aussi de la montagne, hein, des Belges, puisque ce qui est intéressant, c'est que c'est un festival international aussi, hein, puisqu'on a une compagnie belge et une compagnie suisse. Donc les Belges un spectacle de la compagnie Les Vrais Majors qui s'appelle Montagne, et qui raconte en gros la metteur en scène qui essaie de monter pour l'espace public un film des années 30 sur la montagne, une tragédie en montagne. Donc cette fois avec tous les ingrédients, le peu de moyens que peut avoir dans les arts de la rue, donc c'est très drôle, évidemment c'est très loufoque, mais très inventif aussi pour essayer de nous mettre dans une dimension de montagne et de glacier et d'ascension délicate. On pourrait aussi citer un spectacle que j'aime beaucoup, Roméo, donc où quatre danseurs, dont une Roméo, vont tout faire à travers la danse pour essayer de s'approcher de l'autre, pour essayer de trouver leur Juliette. Et les Juliettes, bah, c'est les spectateurs et les spectatrices. Donc toutes tous les coups sont possibles, toutes les danses sont possibles pour approcher, pour séduire, pour charmer, que ce soit les danses populaires, traditionnelles, les danses sur internet, voilà, c'est vraiment très très fort. Et puis on a une chose qu'on posera sur devant l'esplanade du conseil départemental, que j'adore, qui est, alors là c'est vraiment la fête des arts de la rue. On avait reçu cette compagnie tout en vrac avec la cuisinière, les gens s'en rappelleront encore, on a vu des gros jauges, les gens ont adoré ça, d'une cuisinière, un spectacle sans parole où tout pétait, tout explosait dans la cuisine, etc. Et ben là, ils reviennent avec un spectacle plus grosse forme encore qui s'appelle Burning Scarlet, et ils revisitent le film Autant on emporte le vent, avec ce personnage, ce fameux personnage, Scarlett O'Hara, évidemment, qui interroge un petit peu ses œuvres du passé, qui parle quand même d'une jeune femme dans une plantation de coton au moment où l'esclavagiste est un peu désinhibé, enfin toutes choses qui nous paraissent un peu immorales aujourd'hui, donc ils interrogent ça, est-ce qu'il faut brûler nos classiques, hein, c'est une question qui se pose bien. Alors ce que j'adore chez la compagnie Tout en Vrac, c'est que c'est une explosion au sens propre et au sens figuré, ça pétarde de tous les côtés, il y a des costumes, des grands costumes, il y a des accessoires, tout ce qui compose un petit peu la chose très populaire des arts de la rue et qui s'adresse à tout, et c'est joué excellemment par 6 comédiennes qui interprète tous les personnages de cette grande saga américaine, en fait.
Quand on regarde la carte donc, qui est fournie avec le petit livret du programme Tous dehors enfin, on voit que ça part vraiment du kiosque à musique à côté du muséum départemental, ça va jusqu'au collège centre, en passant par l'esplanade et la, du parvis départemental et la cathédrale, donc il y en a vraiment partout.
Et même Charence,
ouais. Tout à fait. Et vous préconisez de vous y rendre comment alors à Tous dehors enfin? Est-ce qu'il faut plutôt avoir établi un planning, ou est-ce qu'il faut mieux se laisser surprendre, se laisser happer par ce qu'on peut trouver dans la rue et qu'on n'aurait pas repéré avant?
Alors j'aimerais bien pouvoir vous dire laissez-vous aller, laissez-vous happer par la rue, par les mouvements, le flux qui va d'un spectacle à l'autre, mais il y a tellement de monde, il vaut mieux préparer son festival. C'est devenu en fait, les spectateurs qui découvraient les arts de la rue sont devenus des festivaliers aujourd'hui, donc maintenant il faut un peu planifier. On peut voir beaucoup de choses dans le festival, il faut cavaler un petit peu. Après c'est une façon d'apprendre un festival, si on a envie de voir un maximum de choses, bon, on va courir, on va faire un planning un peu serré, on va monter à Champs, on va se débrouiller, on va revenir à la pépinière. On peut, hein. Moi, je conseille aux gens de faire un petit programme à la journée et de s'y tenir. Après, si à un moment donné ils sont fatigués ou ils ont de trop courir ou ils peuvent abandonner un spectacle pour aller voir un autre, après, voilà, je pense que c'est le mieux. Mais après, on peut aussi voir pas tous les spectacles, on peut voir 2 ou 3 spectacles par jour et c'est très très bien et c'est déjà beaucoup. Enfin, voilà. Donc, en fait, chacun peut avoir son rythme, ses envies, ses élans. Voilà. Moi, je suis plutôt du genre à vouloir tout voir. Donc, mais je suis pas forcément un bon exemple, c'est mon métier aussi, mais on peut enchaîner et voir beaucoup de choses dans ce festival.
Vous disiez tout à l'heure, Philippe Mariano, le festival a grandi depuis 10 ans et son public aussi, son nombre surtout. Est-ce qu'aujourd'hui on atteint une sorte de plafond de verre où là il faudrait passer à une autre dimension, y compris budgétaire? Je rappelle donc 220 000 euros pour cette édition 2023. Est-ce que pour toucher encore plus de monde, eh ben, il faut mettre encore plus de budget et plus de spectacles du coup?
Si je vous répondrais facilement, je dirais oui, évidemment, il faut plus de moyens pour effectivement répondre à la fréquentation exponentielle de ce festival. Parce qu'on a tous à y gagner à un moment donné. C'est-à-dire qu'on a quand même 4 partenaires publics, on a des mécènes privés, hein, les mécènes des CIM, donc c'est des partenaires importants privés qui financent 25% quand même du festival. Donc on a toutes les cartes en main pour progresser sans que ça soit délirant. Enfin, c'est-à-dire qu'en fait, accompagnons ce flux important de public, désaturons un peu les jauges. Donc ça veut dire, on est pas, posant éventuellement d'autres spectacles, éparpillant un peu plus dans les zones, en tout cas pour que ça s'étire un petit peu et que ça, on revienne dans un format où il y a un confort à nouveau de vision, d'écoute, et qu'on soit pas toujours un peu stressé de pouvoir rentrer dans une cour ou d'aller voir un spectacle ou d'arriver trop tard à un spectacle. Voilà. Après, j'allais vous dire, ça fait partie aussi des arts de la rue. C'est souvent comme ça. Vous allez à Aurillac ou Chalon, on ne peut pas tout voir, ça sature, des fois on arrive trop tard, des fois dans les cours, les collectifs, eh ben c'est fermé parce qu'il y a trop de monde déjà qui est rentré. Donc voilà, c'est pas forcément satisfaisant. Moi, je pense qu'on peut avoir... je pense que c'est important, et de toute façon, c'est ce qui donne la notoriété d'un festival. Un festival qui grandit progressivement, normalement, sans exagération. Bah voilà, mais c'est un pari et un... qu'on fait tous. C'est pas seulement la passerelle qui va dire on aimerait grandir. Enfin voilà. Est-ce qu'aujourd'hui nos partenaires se disent est-ce que c'est important pour la ville de Gap d'avoir ce festival? Est-ce que c'est important pour le département que les gens de tout le département viennent voir ce festival, que c'est un effet assez centripète aujourd'hui? Est-ce que pour la région c'est important que ce festival qui a aujourd'hui le plus grand festival dédié aux arts de la rue monte en puissance, soit un exemple, grimpe en notoriété? Est-ce que pour l'État un festival qui aujourd'hui finance des créations quand même, des premières françaises, qui va nous attirer un journaliste de Télérama, par exemple, cette année, c'est important de le dire. Est-ce que c'est important? Donc voilà, après, c'est tout un... Au-delà des publics et du confort du public, c'est quelle dynamique on donne aujourd'hui à ce festival qui a aujourd'hui 10 ans et qui, en espérant que dans... Il sera encore là dans 10 ans, en fait. Moi, je serai plus là, sûrement, mais il sera installé sur ce territoire et on aura envie de le faire grandir pour le plaisir de tous. Voilà, c'est des choix, en fait. C'est des choix culturels, c'est des choix de politique culturelle, c'est des choix artistiques à prioriser ou pas, quoi.
On a parlé donc des différentes manifestations, représentations sur ce festival. Il y a aussi des à côté, il y a par exemple la guinguette qui sera au kiosque de la pépinière. Qu'est-ce qu'on pourra y trouver là? C'est plutôt un endroit à la fois de restauration et aussi un petit peu festif en soirée.
Oui, écoutez, vous savez que d'habitude on est toujours en partenariat avec Mobilidé, avec leur festival Festividé. Ils vont nous manquer, hein, puisqu'il y a toujours ces concerts qu'ils faisaient en les vendredis et le samedi soir. Et nous, du coup, c'était devenu un peu le bar du festival, le lieu de convivialité du festival, et ça nous allait très bien, et à eux et à nous. Ils ont décidé de changer un petit peu de format, de faire d'autres choses. Ils vont même s'expatrier visiblement du côté de Guillestre, je sais plus, mais même pas forcément à la même époque. Donc on s'est dit, c'est quand même un peu dommage qu'il n'y ait pas un espace convivial où les spectateurs, les artistes peuvent se retrouver, éventuellement échanger avec l'équipe, avec les spectateurs, etc. Préparer éventuellement, parce qu'on va installer ça, une petite guinguette très sympa, ça va être un endroit où on va pouvoir se poser, préparer sa journée, enfin voilà, et rencontrer. Donc on a fait autour du kiosque de la pépinière cette petite où il y aura des food trucks, un bar évidemment, et puis en soirée il y aura deux DJ qui feront un peu essayer de faire danser un peu les gens. Donc voilà, on essaie de recréer cette guinguette bar du festival qui s'y est et qui est importante pour tous les festivals, en fait. On peut pas faire une journée de spectacle et qu'à la fin il y a pas un endroit où on se retrouve tous en fait pour échanger sur ce qu'on a vu, ce qu'on allait voir. Enfin, voilà, c'est aussi ça. Le festival est un facteur de lien social, de rencontre, et on essaie de jouer ça aussi.
Alors on peut évoquer aussi dans les à côté d'autres partenaires qui sont partie prenante sur Tous dehors enfin. Je pense par exemple à l'ADELA. Là, l'idée c'est qu'ils proposent un livret-jeu plutôt à destination du jeune public pour quoi? Alors pour permettre aux enfants de s'impliquer, de profiter aussi de ce festival.
Oui, vous savez que ce festival il est relativement familial. Il y a beaucoup de familles qui viennent avec des plus ou moins jeunes enfants. Donc l'idée c'est de s'emparer un petit peu de les mobiliser, ou en tout cas de les solliciter pour voir les impressions qu'ils ont sur les spectacles, les interroger sur certains spectacles qu'ils viennent de voir, enfin essayer de leur faire parler un petit peu de leur démarche, de leur émotion tout simplement. Et donc voilà, l'ADELA joue ce rôle important de lien social, de lien entre le spectateur, de lien entre les spectateurs et les spectacles vus. Voilà, je pense que c'est important de mettre des mots aussi sur ce qu'on voit des fois et d'échanger, de le partager avec d'autres, et c'est le lien, c'est ce jeu là que joue ADELA, et on est ravis puisque c'est des partenaires depuis longue date maintenant.
On peut voir aussi qu'il y aura une fresque du climat, d'ailleurs à proximité de cet endroit-là. Alors, dites-nous, quel était le... Est-ce que c'est nouveau déjà? Et puis, quel est l'objectif?
Oui, c'est nouveau. L'objectif, c'est... on se dit que vu que ça bouge pas beaucoup, c'est toujours important d'avoir... Et c'est, les arts, les artistes sont aussi là pour ça. Ça peut être parfois des garde-fous à des complications de nos sociétés, des choses qui vont pas. On le sait tous, il y a des choses qui vont pas. Bon, il y a des enjeux climatiques très très forts. Donc il y a des gens qui s'emparent de ces thèmes-là en disant bah, comment je peux l'expliquer, comment je peux sensibiliser sur ces enjeux climatiques qui nous concernent tous. Il n'y a pas d'endroit politique là-dessus. C'est l'humain sur la planète, c'est l'humain au milieu de la nature.
C'est une approche plutôt factuelle, hein, si je ne me trompe pas, plutôt scientifique.
Voilà, c'est, ouais, exactement.
Et c'est dépolitisé comme proposition. C'est quelque chose qu'on pourra trouver auprès de la billetterie du théâtre. Là, est-ce qu'il faut mieux s'inscrire
un
petit peu à l'avance?
Oui, c'est forme d'appel à volontaires hein, qui viendront participer de cette fresque, d'être sensibilisés sur ces enjeux climatiques avec voilà, des faits réels, scientifiques, qu'est-ce qui se passe, pourquoi, qu'est-ce que ça entraîne, etc. Donc, et qui visuellement s'installe comme une fresque avec tous les enjeux et tous les points importants à souligner aujourd'hui et peut-être informer encore des gens qui ont un peu du mal à recevoir toute cette information, en jauger l'endroit exactement. Donc ça peut être, il y a un petit côté pédagogique, mais en tous les cas, qui nous paraît important.
Et enfin, dernier partenaire, on va dire, de ce festival, le SPIP 05, le Centre pénitentiaire d'insertion et de probation. Quel rôle est-ce qu'il joue dans ce festival? Qu'est-ce que le festival Tous dehors enfin propose au SPIP?
En fait, on a un partenariat à l'année, toute la saison avec le SPIP, avec différentes actions, des ateliers, des choses comme ça, des rencontres. Et chaque année, en fait, depuis presque le début du festival, je crois que même dès la première édition, ou peut-être la deuxième, on joue un des spectacles dans la cour de la prison pour les détenus. On a aussi un rôle, les scènes nationales ont aussi un rôle de s'adresser à tous les publics, et ça peut être les publics empêchés. Évidemment, les gens à la maison d'arrêt sont des publics empêchés, donc on va jouer un des spectacles, ce sera le spectacle, un extrait du spectacle de la compagnie Zid, qui s'appelle Routine, ce ne sera pas tarot parce que c'était compliqué techniquement de monter un machinois, mais qui joue pour les détenus qui sont là et qui sont libres de voir le spectacle, et il y a des discussions après, enfin voilà, ça nous paraît important et... on est là, chaque année, au centre de la maison d'arrêt.
Tous dehors, enfin, le coup d'envoi, c'est vendredi 2 juin, dans le centre-ville à 18h, avec Roméo, sur le parvis de la cathédrale. Et puis, on enchaînera avec Burning Scarlet à 19h. Alors, merci beaucoup, Philippe Arigneux, donc
merci
directeur du Théâtre La Passerelle. Tout le programme est à retrouver, bien sûr, sur le site du théâtre, ou bien dans différents endroits, en version papier, pour le détail.
Exactement.
Merci à vous.